Espace 2. À vue d'esprit.
Lorsque l'on dit « je suis de bonne humeur »,« je suis fatigué », »,« je suis jeune », il y a toujours « je ». « Je suis ». Qu'est-ce que c'est que ce « je » ? Un « je » qui reste stable, malgré tous les changements de l'existence, le fait que l'on grandisse, que l'on vieillisse. C'est une des questions tordues que se posent les religions orientales, une question que l'on aborde aujourd'hui avec notre invité, Arnaud Desjardins. Marie-Claude Cudricine, la réalisation, bienvenue dans « À vue d'esprit ».
À vue d'esprit.
Catherine Erard, bonjour.
Bonjour.
C'est vous qui avez interviewé Arnaud Desjardins, ce réalisateur de télévision célèbre dans les années 60 en France, à cause de ses reportages sur des sages hindous, bouddhistes ou soufis. Un réalisateur qui a au fond laissé un jour tomber la caméra pour devenir le disciple d'un maître hindou, et qui, depuis les années 70, est devenu, alors à son tour, un maître spirituel. Quand vous l'avez rencontré, quelle allure est-ce qu'il a? Est-ce qu'il a l'air d'un maître?
Alors, bon, d'abord, il a 80 ans, et puis il ne faut pas se le représenter comme quelqu'un d'origine. Original, entre guillemets, qui serait vêtu d'une longue robe bordeaux.
C'est l'image qu'on en a, comme ça, a priori.
Avec soit les cheveux rasés à la mode bouddhiste, ou bien longue barbe, longs cheveux à la mode hindoue. Pas du tout. Il est vraiment habillé en occidental classique, un homme élégant, cheveux blancs bien coupés. Il était rasé de près quand je l'ai rencontré ce jour-là. Et malgré son âge, c'est quelqu'un de très vif, de très attentif. Et ça m'a frappé. C'est-à-dire que quand vous êtes en discussion avec lui, vous sentez vraiment qu'il est présent, qu'il n'est pas en train de penser à sa prochaine conférence ou à son prochain week-end. Et ça, c'est vraiment une qualité de présence qu'on ressent, qu'on est face à lui.
Alors aujourd'hui, on va parler du jeu, de l'ego. C'est pas un peu complexe ou un peu prise de tête philosophique?
C'est vrai que c'est des thèmes qui sont plutôt philosophiques, mais ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on part de constatations à la base toutes simples, en se posant une question qu'on se pose jamais, un petit peu comme le poisson qui pense pas à l'eau dans laquelle il vit. La question, c'est la suivante, derrière « je suis journaliste, je suis suissesse, je suis de bonne humeur, de mauvaise humeur », il y a un « je », alors qu'est-ce que c'est que ce « je » ? Je vous l'accorde, c'est pas la première question qu'on se pose en se levant le matin, mais enfin quand même, ça mène loin. On retrouve Arnaud Desjardins sur la question de l'ego. Pour commencer.
Le mot ego est un mot devenu à la mode. Quand j'avais 24 ans et que j'ai commencé à chercher un peu autre chose que ce que j'avais appris au lycée ou à l'école des sciences politiques, on employait beaucoup moins ce mot ego. Et c'est un mot très piège. Parce que on peut en arriver à des expressions absurdes telles que mon ego. Alors l'ego, c'est moi. Le mot veut dire moi. Alors moi qui possède un moi, qu'est-ce que c'est, devient incohérent. Ce serait déjà beaucoup plus juste de parler d'égocentrisme, parce que l'égocentrisme, il est là, c'est voir le monde à travers qu'est-ce qui m'arrange moi, qu'est-ce qui me rassure moi, qu'est-ce qui m'inquiète moi, qu'est-ce qui me convient à moi. Une des premières découvertes, c'est que l'ego, en fait, n'est que changement. Que changement. Heureux, malheureux, inquiet, rassuré, en pleine forme, fatigué, de bonne humeur, de mauvaise humeur, etc., etc. L'ego n'a pas une réalité fixe. Ce qui a une réalité fixe, c'est le nom. On s'appelle de tel prénom et de tel nom, sauf si on a un pseudonyme artistique ou littéraire. Et une certaine continuité physique qui se voit sur les photos, bien que le corps ne cesse pas lui non plus de vieillir. C'est un processus, hein, un devenir. Donc l'ego est un mot piège. Et surtout, on devrait, si on veut comprendre qu'est-ce que c'est l'ego, le sage n'a plus d'ego, qu'est-ce que ça signifie, toujours traduire ce mot ego par moi et. E.T. S'il n'y avait que moi, ben ce serait la réalité, la totalité, l'univers entier, Dieu lui-même. C'est moi et. Moi et tout ce que j'aime, moi et tout ce que je n'aime pas, c'est synonyme de deux, de dualité. Et ça, c'est une expérience très claire. Moi et la pluie, le beau temps, moi et tous les événements autour de moi, reconnu comme plaisant ou déplaisant, rassurant ou menaçant, et en nous-mêmes, moi et ma fatigue du moment, moi et cette tristesse qui est encore revenue alors que j'avais l'impression que j'en étais sorti. C'est toujours moi et. Et ce moi, par rapport à l'autre, moi et mes cheveux qui tombent, certains hommes, c'est un désespoir. Ce moi n'est jamais neutre. Jamais. Si on regarde bien, c'est tout le temps une réaction. Une réaction. Oh oui, oh non. Oh oui, oh non. Et pour avoir une approche réelle, véridique, pas de la réalité interprétée par moi, mais de la réalité en elle-même, nous pouvons intervenir sur cette permanente réaction de l'ego dans cette dualité. Oh non, pas de nouveau la fatigue. Ça fait une semaine que je me sentais enfin en forme et la fatigue est revenue. Moi et ma fatigue. Alors l'ego, c'est moi et. Et j'insiste, un moi qui n'est jamais neutre. Le mot sanskrit signifie ce qui fait le sens du moi. Voilà. Sur ce moi, l'existence a plein pouvoir. Une bonne nouvelle, l'existence m'ordonne, sois heureux. Et je ne peux pas éviter l'émotion heureuse. Une mauvaise nouvelle, l'existence m'ordonne, sois malheureux. Et à ce niveau, je ne peux pas éviter d'accuser le coup, comme on dit. Donc, on s'aperçoit que les émotions, qui sont tellement, tellement, tellement courantes dans l'existence, que les émotions sont un facteur de confusion et entretiennent l'ego, la limitation, la séparation, le moi et tout le reste. Et tout ce reste qui a un tel pouvoir soit de me rendre heureux, soit de me rendre malheureux.
Et comment alors est-ce qu'on envisage, avant de parler, je dirais, de la disparition de l'ego, on y viendra après, mais comment est-ce qu'on envisage déjà une croissance harmonieuse? Vous utilisez ce terme.
Ah oui. Bon, cet ego est plus ou moins capable d'admettre la réalité telle qu'elle est, de s'incliner, je n'insisterai jamais trop, au présent, laissant le futur libre, de s'incliner devant la réalité. Oui, c'est. La question n'est pas si ça me convient ou non. La question, c'est si c'est quoi que ce soit ou si ça n'est pas. À partir de là, qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux intervenir? Donc, certains êtres ont beaucoup plus de capacité à assumer l'existence telle qu'elle se présente pour eux. Et d'autres, tout leur fait mal. Et inversement, tout ce qui est un peu heureux les emporte. Comme une espèce de mirage, de fascination. Donc là, nous entrons dans le domaine qu'a beaucoup et profondément étudié la psychologie moderne depuis 100 et quelques années, la capacité à vivre à peu près normalement dans le monde, chacun le nôtre. Hein. Nous n'avons pas, nous, Français ou Suisses, à vivre les mêmes épreuves que telle population africaine impliquée dans des combats de clans. Et trop souvent, des consciences de soi, au sens le plus simple, très blessées, compensent leur fragilité par des rêves de spiritualité. Et bien sûr, la vérité est ouverte à tous, la spiritualité est une voie ouverte à tous, mais ne lui demandons pas ce qu'elle ne peut pas nous donner, et il y a d'abord une phase préparatoire qui consiste à structurer cet ego, à le rendre, disons, plus banalement normal.
Qu'est-ce que vous mettez derrière ces mots d'un ego normal? C'est quoi?
L'idée de ces enseignements spirituels, c'est que l'être humain porte en lui, en tant qu'être humain, la potentialité d'une immense transformation. Les chrétiens orthodoxes emploient la formule la déification ou la divinisation de l'homme. Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ pour que l'homme puisse se faire Dieu. C'est immense une affirmation comme celle-là. Les bouddhistes, les hindous, considèrent que l'homme tel que nous le connaissons est comparable à une graine qui peut devenir un arbre immense. C'est ce que nous appelons une métamorphose. Et une image ancienne prise dans la nature, c'est la transformation de la chenille en papillon. Donc la transformation d'un être humain avec ses doutes, ses peurs, son égoïsme, ses limitations, en un être humain qui est passé au-delà de toutes ses infirmités spirituelles, si je puis dire. Mais pour qu'une chenille se transforme en papillon, encore faut-il que cette chenille ne soit pas une chenille malade. Et on emploie beaucoup l'expression « l'ego doit mourir pour que la réalité ultime se révèle ». Toutes les mystiques ont employé ce langage. Pour le christianisme, la résurrection est précédée par la crucifixion et la mort. La mort du vieil homme, en langage chrétien, est la naissance de l'homme nouveau. Mais si on entend « il faut que la chenille meure », alors si j'ai écrasé une chenille, ça fait quoi ? Ça ne fait pas un papillon. Donc il faut prendre grand soin de cet homme non régénéré. Et c'est ce que font les maîtres qualifiés qui se rendent très bien compte. Cet homme ou cette femme qui m'approche a une solidité, une capacité qui me permet d'avoir une action très directe, presque brutale parfois, pour aider cette métamorphose. Ou au contraire, cet homme ou cette femme blessé, mutilé, douloureux, fragile, il faut l'aider à se structurer. Et parfois, le meilleur conseil qu'on puisse donner à quelqu'un qui a une espérance spirituelle forte, je vous souhaite de mener à bien une psychothérapie qui vous donnera un point de départ plus solide, normalement, moyennement solide.
Ça veut dire que parfois, le sage, il se fait psychothérapeute ?
Certains, ce n'est pas du tout leur rôle. Ils sont exclusivement des témoins d'un éveil possible. D'autres sont en fait de très fins psychothérapeutes. J'ai observé dans toutes les traditions, toutes les communautés où j'ai pu séjourner, ces deux attitudes. Mais ce qui est sûr, c'est que les enseignements tels que la tradition, les allégués, les paroles des maîtres, ce qui fait la base du tasawuf, c'est-à-dire ce que nous appelons le soufisme, il y a des très fines connaissances psychologiques, bien avant Freud. Et surtout, une prise en compte de l'inconscient. Dire que l'inconscient a été une découverte de Freud, c'est vrai du point de vue de la psychiatrie occidentale, mais avec un vocabulaire un peu différent, tous ces enseignements anciens, et notamment l'enseignement hindou qui est très clair à cet égard, tient compte de dynamismes profonds que nous portons en nous et que nous ne connaissons pas.
Vous avez été, durant vos séjours en Inde, très frappé, quand on vous lit, par l'éducation qui est donnée aux petits-enfants. Alors, c'est peut-être l'éducation traditionnelle, parce qu'aujourd'hui, les choses évoluent selon les endroits. Mais qu'est-ce que cette éducation traditionnelle a de spécifique par rapport à ce qu'on peut voir ici, chez nous ?
Là, nous abordons un thème qui mérite une réflexion poussée. La différence entre les deux verbes auxiliaires de la langue française, « avoir » et être. Et à cet égard, il y a une immense confusion. Et j'ai été très, très saisi quand j'ai découvert que dans certaines langues, il n'y a pas d'auxiliaire avoir. Toute la langue est construite autour de l'auxiliaire être. Notamment dans le hindi contemporain, moderne. Le verbe être est rejeté à la fin, et même si on ne parle pas le hindi, on peut remarquer presque toutes les phrases se terminent par « et », qui est le verbe être. Donc, vous ne pouvez pas directement dire « j'ai trois enfants ». Trois enfants sont auprès de moi. Ça m'a fait beaucoup réfléchir, ça. Et cette idée d'être, c'est ça qu'on appelle le Dharma en Inde. Je suis un père et pas j'ai une fille, j'ai un fils. Je suis une mère. Pas c'est mon fils, c'est ma fille, je suis son père. Ça change beaucoup les choses. C'est mon Dharma, ma dignité, elle est d'être vraiment un médecin si je suis médecin, d'être vraiment un enseignant si je suis professeur, d'être vraiment un père si je suis père, et d'être vraiment un fils au moment où je suis en face de ma vieille mère à qui je vais rendre visite, peut-être dans une clinique si elle est hospitalisée.
Et pas d'avoir de l'argent, d'avoir de la reconnaissance sociale, comme si en Occident on était plus constitué sur un peu l'illusion du bonheur basée sur l'avoir.
L'Inde a une sagesse très, très profonde, mais en même temps, une sagesse réaliste. Donc il y a une certaine image un peu idéalisée de l'Inde. La corruption, je l'ai vue. Mais de sentir, pour aller vers le je suis ultime, je suis cette réalité unique, éternelle, comme la vague qui réaliserait, mais je suis l'océan. L'océan demeure en moi et je demeure en lui. Mon être réel, c'est l'océan. Pour aller dans cette direction, il faut un chemin progressif. Et d'abord, dans cette conscience de la dualité, moi et il y a tout ce qui nous fait peur, tout ce qui nous attire, tout le monde immense, des ambitions, des désirs, le désir d'être connu, d'être admiré, le désir d'être aimé, de ne pas être abandonné, tous ces désirs, la tradition en tient compte. Seuls certains êtres, spécialement mûrs, sont prêts pour tout quitter à l'âge de 20 ans et se faire moine trappiste ou disciple d'un maître dans une grotte de l'Himalaya. Mais le chemin normal, ce sont les différents âges de l'existence et un âge où ce qui permet l'épanouissement, c'est d'avoir un métier, de se marier, d'avoir des enfants, de voyager. Et puis, peu à peu, par l'expérience, comprendre, mais tout ça, c'est limité. Il faudrait toujours plus, plus beau, plus merveilleux, plus... C'est fragile, rien ne dure. Une situation heureuse, il suffit d'un accident pour la briser complètement. Donc, par l'expérience de l'existence, vient une maturité. C'est pas « j'ai lu et j'ai relu et j'ai relu, tous les biens humains sont périssables, tout est vanité, seul l'absolu, seul Dieu peut combler un cœur. » Je le sais maintenant, c'est mon expérience. Alors il y a une maturité pour la recherche essentielle.
Apprendre par l'expérience de la vie et non pas dans les livres, apprendre ce qui est essentiel et ce qui est vain dans nos vies, c'était Arnaud Desjardins. Demain, Catherine, quel programme ?
Alors, on va parler des émotions.
des émotions, mais les hindous ou les orientaux, ils s'en méfient un peu, ils aiment pas trop.
Tout à fait. C'est pas tout à fait leur tasse de thé. Ils s'en méfient même grandement. Les élans d'enthousiasme qui vous font grimper au 7e ciel ou les coups de déprime qui vous plongent au 36e dessous, c'est très très mal vu par les sages d'Orient. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire.
Merci Catherine Erard. D'ici là, si vous souhaitez nous contacter ou commander l'émission, notre répondeur au 021 318 60 70. À demain.